c'est la boîte à musique.
Bonjour, c'est Anne sur Altitude FM. Venez avec moi à la découverte d'un compositeur de l'époque romantique. Aujourd'hui, nous allons évoquer Edvard Grieg, le grand compositeur romantique norvégien. Connaissez-vous cet air ? C'est la pièce lyrique opus 54, numéro 3 d'Edvard Grieg. Cette transcription pour orchestre du morceau original pour piano nous plonge dans l'univers endiablé des trolls, mauvais génies de la montagne qui hantent la culture norvégienne. Ils habitent dans les coins sombres de la forêt. Ils représentent le côté obscur des rêves, le vivier des cauchemars. Nous sommes au tournant du siècle. Freud publie justement l'interprétation des rêves en 1900. Tandis que Paris accueille l'exposition universelle et Monet expose ses nymphéas au musée de l'Orangerie à Paris. Edvard Grieg est né le 15 juin 1843, dans le port norvégien de Bergen, où son père est consul britannique. Sa mère, pianiste accomplie, lui donne ses premières leçons de musique. Un violoniste, ami de la famille, détecte ses dons et conseille à ses parents de l'envoyer étudier au conservatoire de Leipzig en Allemagne. Ce conservatoire a été créé par Mendelssohn en 1843, l'année de la naissance de Grieg. Il a alors 15 ans et va y rester 4 ans, avant de s'établir à Copenhague, ville qu'il considère comme la capitale culturelle scandinave. Il y fait deux rencontres fondamentales en 1864. Celle du compositeur Richard Nordraak, chantre du romantisme nationaliste, et celle de Nina Hagerup, sa jeune cousine, déjà cantatrice reconnue, excellente chanteuse, qui devient sa femme et l'interprète de ses mélodies pour la vie. Richard Nordraak a composé la musique de l'hymne national norvégien sur un texte du prix Nobel de littérature Johnson, interprété pour la première fois en 1864. Il se lie d'amitié. Les idées nationalistes de Richard lui font comprendre l'importance de ce combat. Grieg dit « Soudain, il me tomba des écailles des yeux. J'appris à connaître nos chants du Nord. J'entrais dans une voie nouvelle. » Richard meurt de la tuberculose à 24 ans. Grieg, accablé de chagrin, reprend pourtant le flambeau. Il veut réussir pour son pays ce que Chopin a fait pour la Pologne et Liszt pour la Hongrie. Il crée un univers sonore typiquement norvégien. Son mariage avec Nina déplaît à leurs parents respectifs. Pour ceux de Grieg, ce n'est pas le moment de se marier si jeune en début de carrière. Et la mère de Nina s'écrie « Il n'a rien et sa musique n'intéresse personne !» Ce en quoi elle se trompait lourdement, car son gendre ne tarde pas à se faire un nom comme pianiste virtuose et comme chef d'orchestre. Quelle est l'influence du romantisme allemand dans son œuvre ? Eh bien, il déteste les leçons académiques du conservatoire. Il est influencé par la musique romantique allemande pourtant. Il s'inspire de Chopin, Liszt et Schumann surtout. L'interprétation de leur idéal musical, conjuguée avec sa propre puissante personnalité, nous le fait ressentir dans son concerto pour piano, œuvre qu'il compose à 24 ans en 1867. Au moment de ses fiançailles avec la cantatrice Nina Hagerup, sa cousine. Vous allez entendre, après un bref roulement de timbales, l'entrée du piano en cascade descendante, puis le thème dansant des bois et le motif ascendant de trois petites notes qui reviennent régulièrement, suivi d'une fanfare. Puis, la partie piano joue solo cadenza, la cadence qui a pour fonction de conclure un morceau ou de provoquer un enchaînement. Thank you. Cette œuvre lui procure immédiatement la gloire et la sécurité financière, car c'est un chef-d'œuvre. Comment Grieg sert-il par sa musique la lutte pour l'indépendance de son pays? Eh bien, c'est un chef d'orchestre apprécié, je l'ai dit, et il arrive ainsi à imposer son idéal de musique nationale, dans un contexte d'affirmation du nationalisme partout en Europe. Tous les musiciens de tous les pays d'Europe recherchent les chansons populaires qui expriment le mieux, selon eux, l'âme du peuple, qui rêve de s'émanciper de la tutelle d'un grand voisin. Tout comme le peuple tchèque désire de se libérer de la tutelle de l'Empire autrichien, la Norvège milite pour son indépendance, qu'elle n'obtiendra que le 7 juin 1905. Depuis que le Danemark l'a cédé à la Suède en 1814, elle a sa propre constitution et son parlement, mais elle est sous le contrôle suédois. Il lui a fallu donc presque 100 ans pour se libérer de cette tutelle. La Norvège développe un fort sentiment nationaliste que la musique de Grieg exacerbe. Le livre de chevet de Grieg, c'est un recueil de chansons et danses populaires norvégiennes. Et c'est à cette source qu'il puise tout un imaginaire autour de la forêt, des génies, des trolls, de la magie, de l'émerveillement devant le clair de lune dans une clairière. On peut dire qu'il a passé sa vie à faire connaître la musique populaire de son pays et à en utiliser les éléments dans sa propre musique. Sa lutte pour un art national est reconnue et révélée à l'étranger par Liszt en 1870. Dès lors, il mène en parallèle son travail de composition, une carrière d'organisateur de la vie musicale en Norvège et ses propres tournées de concerts. Il mène une vie trépidante, une vie de voyage. À Rome, par exemple, il rencontre le grand auteur dramatique norvégien Henrik Ibsen. Il n'a alors que 22 ans et Ibsen 37. Celui-ci lui commande une musique de scène pour son épopée théâtrale Peer Gynt en 1876. Nous allons écouter au matin une mélodie célèbre introduite par la flûte, puis le hautbois et enfin les cordes. Ensuite éclate à l'orchestre le soleil levant qui perce les nuages. Gynt raconte l'histoire d'un mauvais garçon qui vit seul avec sa vieille mère dans un petit village de montagne. Il dédaigne l'amour de son amie Ingrid qui finit par se marier avec un autre. Le jour de leur mariage, Per furieux enlève la fiancée et l'emmène dans la montagne. Mais, sensible à ses pleurs, il la laisse repartir et continue seul son chemin dans la forêt montagneuse et sombre. Il rencontre alors une princesse, tout de vert vêtue, aux yeux d'émeraude. Il en tombe immédiatement amoureux. Celle-ci prétend être la princesse de ces lieux, fille du roi de la montagne. Il lui répond « Moi aussi je suis prince, ma mère possède le pays que tu vois en bas. » Et il l'enlève, elle aussi. Les trolls s'en prennent à Per, jugés coupables d'avoir poursuivi leur princesse jusque sous terre. On entend alors un crescendo diabolique qui gagne l'orchestre. C'est le fameux morceau « Dans l'antre du roi de la montagne ». Le roi de la montagne, c'est le père de la femme en vert. Son jugement est terrifiant. Thank you. Cette musique inquiétante, glaçante même, est utilisée par Fritz Lang dans son film M. le Maudit en 1931. M. le Maudit sifflote cet air tragique lorsqu'il se prépare à tuer un enfant, mais cet air le perdra aussi, puisqu'il permettra de le reconnaître. Ce morceau inspire de très nombreuses reprises, même en rock. Un groupe d'heavy metal australien a même pris le nom dans l'antre du roi de la montagne. À partir des années 1980, ce sont les jeux vidéo qu'il utilise pour explorer des pièces souterraines, pour suggérer un espace menaçant. Père est chassé. Il s'enfuit et disparaît pendant 3 ans. Puis il revient comme par hasard dans son village, juste au moment où sa vieille mère s'apprête à mourir. Il la console en évoquant un voyage imaginaire à travers la neige sur un traîneau. Un conte semblable à ceux qu'elle lui contait quand il était petit. Mais il ne tarde pas à repartir. Il file vers le port pour se faire embaucher sur un bateau, décide de faire le tour du monde. Lors de ses voyages, il fait toutes sortes de métiers. Pêcheur de phoques dans la baie d'Hudson, chercheur d'or en Californie. En Afrique, il tombe amoureux d'une jeune arabe, Anitra, qui se met à danser pour lui, comme pour l'envoûter. Thank you. 20 ans ont passé. Ses voyages, finalement, ne lui ont rien apporté. Déçu, meurtri et vieilli, il revient définitivement dans son village et entend une douce mélodie dans la montagne. C'est la chanson de Solveig. Elle était une toute jeune fille lorsqu'il l'avait rencontrée au mariage d'Ingrid et elle avait repoussé sa proposition de danser. Et c'est après cela qu'il s'est mis en colère et a enlevé Ingrid. Solveig devine qu'il ne peut rentrer au village de peur d'être châtié pour l'enlèvement. Et elle a décidé de l'attendre, aussi longtemps qu'il le faudra. Elle quitte sa famille et construit une petite maison au sommet de la montagne. Là, elle se met à l'attendre patiemment, en chantant, en élevant ses moutons et en filant la laine. Écoutons ce chant poignant par Anna Netrebko. Lorsque Per gravit la montagne pour découvrir qui chante aussi merveilleusement, tout d'un coup, à la vue de Solveig, il s'aperçoit que c'est là qu'il est bien. Son cœur s'ouvre. Il s'agenouille devant elle. Elle le berce sur ses genoux. On peut dire que l'amour de Solveig le sauve. Gainsbourg en a écrit une version pour Jane Birkin, Lost Song.
Lost song dans la jungle de nos amours éperdus. Notre émotion s'est perdue. Lost song à la longue, les mots semblent superflus entre le flux, le reflux. Mon songe part en mission, on se tait, on sait tu, on sait ce qu'il s'est su.
Des morceaux simples nous montrent aussi une autre facette du grand compositeur, bien loin de la musique symphonique. Ce sont d'humbles petites pièces lyriques, véritables miniatures pour piano, qui lui valent le titre de Chopin du Nord. Tendre, joyeuse, intime et brillante, la pièce lyrique numéro 6, Jour de noces, est dédiée à sa femme, Nina, pour célébrer leurs 25 ans de mariage, en 1892. Le début est plein d'allégresse, vous allez l'écouter, puis une rêverie romantique lui succède. Le piano chante « Poco tranquillo », de manière calme et tranquille. Enfin, la danse reprend. Écoutons aussi la pièce lyrique appelée Notturno. Nocturne romantique, cette pièce lente, accélérée dans sa partie centrale, restitue l'atmosphère mélancolique de la fin du jour. Proche de Chopin, il l'est aussi de Debussy, qui compose son Clair de lune la même année en 1891. Debussy a beaucoup inspiré Grieg, qui a eu la révélation de son génie en écoutant Prélude à l'après-midi d'un faune à Oslo en 1902. Il s'ouvre alors à la fin de sa vie à une musique libérée des contraintes harmoniques du XIXe siècle et de l'esprit romantique allemand. C'est pourquoi on dit parfois que Grieg est un trait d'union entre Liszt et Debussy. Et c'est réciproque, Grieg a influencé Debussy et Ravel aussi. Il meurt à l'âge de 64 ans, d'une maladie pulmonaire contractée à l'adolescence, le 4 septembre 1907, à Bergen, où il est né et a passé presque toute sa vie à composer. Il souhaitait un enterrement très simple, mais le gouvernement lui a fait des funérailles grandioses, dignes d'un héros national. Il est considéré comme l'âme de la Norvège. Il a donné à la musique de son pays un rayonnement international. Les morceaux essentiels de son père Gint ont émigré vers les salles de concert sous des formes symphoniques qui ont fait le tour du monde. Aujourd'hui, on peut visiter la maison de Grieg en Norvège, à Trolldaugen, nom bien en accord avec la prédilection du musicien pour les légendes de son pays, puisqu'il signifie le tertre des trolls. C'est à quelques kilomètres du centre de Bergen, près d'un lac, dans un petit coin paisible, idéal pour composer dans le silence le plus complet, comme Grieg tenait à le faire. La villa est devenue un musée, où l'on peut admirer quelques souvenirs et objets, comme un violon traditionnel utilisé par les villageois pour faire danser, ou un piano Steinway de 1892, offert à l'occasion de ses 50 ans de mariage. En 2002, le pianiste norvégien Leif Ove Hansen enregistre 24 des pièces lyriques de Grieg sur ce fameux piano à queue, à la résidence du compositeur. Tous les étés, ses œuvres sont jouées à l'auditorium, qui bénéficie d'une vue imprenable sur le chalet et sur le lac. Le public est alors transporté dans le traîneau de ce citoyen du monde de la musique, du tournant du 19e siècle. Aujourd'hui, des musiciens de jazz reprennent l'air de la chanson de Solveig. Je vous donne rendez-vous sur Altitude FM tous les troisièmes jeudis du mois à 17h.